Radio Grand Ciel, bonjour. Chères auditrices et chers auditeurs, nous voici à la 12e émission de Demain les énergies. Toujours réalisée au téléphone, au micro Paolo Davi et à l'autre bout du fil, Marc Blaiseau. Bonjour Marc.
Bonjour Paolo et bonjour à toutes et à tous.
Alors Marc, nous voilà à notre 12e émission, un an déjà, et depuis, énormément de choses se sont passées, et pas seulement dans le domaine des énergies. Nous avons commencé en pleine période de l'épidémie du Covid, avec les confinements et toutes les limitations inévitables à nos libertés de déplacement. Depuis, notamment grâce aux vaccinations, les choses vont beaucoup mieux, surtout dans nos pays riches, effectivement, qui peuvent se payer les vaccins et les systèmes hospitaliers modernes. Mais nos émissions continuent d'être réalisées et enregistrées à distance par téléphone. En tout début de nos émissions, nous avions commencé par expliquer quelques concepts de base. Je rappelle ici par exemple que l'énergie est la capacité à changer d'état. Par exemple, il faut de l'énergie pour passer de l'état d'arrêt à l'état de mouvement, ou pour générer de la vapeur d'eau, ou encore pour faire tourner les pales d'une éolienne.
Tout à fait, tout ça, et il faut le rappeler, et c'est grâce aux physiciens, nous savons aujourd'hui que l'énergie, c'est le résultat du produit de la puissance multiplié par le temps. Que l'énergie se mesure en joules, ou mieux en kilojoules, ou mégajoules, ou en kilowattheure, hein, c'est plus courant, ou encore en baril équivalent pétrole.
Oui, tout à fait Marc, tu as raison. Nous avons aussi parlé des divers types d'énergie qui ont permis aux êtres humains d'évoluer et de mieux s'adapter aux différentes conditions de vie sur notre planète, mais aussi de l'impact et des conséquences qu'inévitablement cela a eu sur l'écosystème Terre. Marc et moi, nous espérons qu'avec nos émissions, nous vous avons apporté des informations et des réponses à certaines de vos questions, ce qui vous a peut-être permis de vous faire votre propre opinion sur des sujets brûlants, si j'ose dire, aussi importants que les énergies du futur, les nouveaux types des transports, mais aussi la situation actuelle et à venir concernant la transition énergétique, c'est-à-dire l'abandon des énergies fossiles et la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre.
Et oui, Paolo, l'espèce humaine a besoin d'énergie en permanence. Il en faut pour toutes les activités quotidiennes. Et les prévisions pour le futur sont que, notamment, l'utilisation de l'énergie électrique va augmenter de manière très importante, très conséquente. Alors rappelons ici que l'énergie électrique n'est qu'un vecteur d'énergie.
Ah oui.
C'est pas une source primaire d'énergie, comme on l'a dit, hein, comme c'est le cas de produits fossiles, par exemple, le charbon, le pétrole, le gaz naturel, ou l'énergie hydraulique ou solaire. Rappelons également que cette transition énergétique, c'est finalement passer de produits fossiles aux métaux et aux matériaux. C'est un peu passé, si on peut dire, du puits de pétrole à la mine métallique,
oui,
ou à la
oui.
carrière de matériaux.
Oui.
Tout ce qu'il faut pour bâtir ces éoliennes et autres panneaux solaires. Toujours de la géologie, Paolo, pour nous. Et toujours de nouvelles dépendances pour tous. On ne se fera peut-être plus la guerre pour l'Irak, mais pour le Zaïre la prochaine fois.
Eh oui, Marc. L'économie mondiale reposera toujours sur des échanges de matières premières, car nous n'avons pas tout chez nous et nous ne pouvons vivre en autarcie.
Oui.
Avant de passer à notre sujet principal d'aujourd'hui, nous avons comme d'habitude notre rubrique Quoi de neuf, dans laquelle nous avons deux sujets assez surprenants et intéressants. Après plusieurs mois de négociations, Washington et Berlin ont annoncé mercredi 21 juillet d'avoir trouvé un accord au sujet du gazoduc Nord Stream 2 qui doit acheminer le gaz russe en Allemagne en passant par la mer Baltique. En pratique, l'accord va permettre l'achèvement du chantier qui est déjà en fait terminé à 98%, mais qui a été retardé par des sanctions imposées par les États-Unis, et notamment par Trump, contre plusieurs entreprises impliquées dans le projet. En échange de levée des sanctions réclamées par l'Allemagne, le président américain Joe Biden a négocié avec Berlin un accord visant à empêcher à la Russie de se servir de l'énergie pour nuire à l'Ukraine. Cet accord permettra à l'Allemagne de remplacer les charbons et les lignites dans ses centrales et utiliser les gaz et contribuer ainsi à une forte réduction des émissions de gaz à effet de serre et des particules fines. Je rappelle, comme j'ai déjà fait plusieurs fois, que lors de la combustion du gaz naturel, il y a 2,3 fois moins d'émissions de CO2 que lorsqu'on brûle du charbon, et en plus, les gaz naturels n'émettent pratiquement pas des particules fines. Voilà, et l'autre sujet, Marc, est assez surprenant. Il faut savoir que seulement 5% des centrales électriques dans le monde sont responsables des 73% des émissions de CO2. Peux-tu nous dire un peu plus?
Tout à fait, Paolo. Effectivement, le chiffre est stupéfiant. 5% des centrales, 75% des émissions. Et en fait, c'est une poignée d'énormes centrales qui sont supérieures à 1500 mégawatts,
Ouais.
des centrales thermiques, donc au charbon dans le monde, qui sont des super émetteurs de dioxyde de carbone.
Ouais.
Elles se trouvent pour la plupart en Chine, en Inde, au nord-est des États-Unis, au centre, à l'est de l'Europe. Elles ont pour caractéristique commune, donc de fonctionner avec du charbon, d'être peu efficaces sur le plan énergétique. Remplacer ces centrales doit donc être une priorité. Et bien sûr, elles produisent aussi beaucoup. Telle est la conclusion d'une étude publiée par la Environmental Research Letter et réalisée par un groupe de chercheurs de l'Université du Colorado. Ils ont analysé les données provenant en 2018 de 29 000 centrales
Ah
électriques
ouais.
fonctionnant au charbon dans 221 pays avec des carburants fossiles. Ils ont classé les centrales en fonction de leurs émissions de dioxyde de carbone en 2018 et donc identifié les pires des pires, si je peux dire.
Oui.
Et la situation est sans doute loin de s'améliorer cette année, car avec l'augmentation rapide de la consommation d'électricité suite à la reprise de l'économie mondiale, hein, post-Covid, cette année et l'année prochaine,
Ouais.
l'envolée des prises du gaz naturel, j'ai l'impression que la consommation de charbon va atteindre des niveaux records dans l'année qui vient, quoi.
Oui, assez surprenant et intéressant, Marc. Aujourd'hui, nous consacrerons notre émission à une source d'énergie très importante dans le monde, et notamment pour la France. Il s'agit bien sûr de l'énergie nucléaire, qui est une source d'énergie de type continu, et qui est générée grâce à une réaction qui s'appelle la fission nucléaire. En effet, Marc, il existe aussi une autre réaction nucléaire qui génère de l'énergie, et qui s'appelle la fusion nucléaire. Mais tu peux peut-être, Marc, expliquer de manière simple quelle est la différence entre ces deux réactions.
Oui, tout à fait, Paolo. Ayant en tête que l'énergie nucléaire, finalement, c'est l'énergie de liaison des constituants du noyau des atomes.
Ouais.
Ce noyau est un assemblage de protons de charge positive et de neutrons sans charge, un neutre comme leur nom l'indique bien. Ces éléments sont très fortement liés malgré la répulsion électrique entre protons qui ont la même charge positive. Le noyau est extrêmement compact, hein, c'est 10 puissance moins 12 millimètres.
Ouais.
Donc 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même, mais il
Oui.
concentre pratiquement toute sa masse.
Ouais.
Alors, dans les atomes lourds, le noyau contient beaucoup de protons qui se repoussent, et certains de ces noyaux, par exemple l'uranium ou le thorium, peuvent devenir instables et se cassent finalement en libérant une partie de leur énergie de liaison. Donc c'est ce qu'on appelle la réaction de fission de l'atome, hein. Il se fissure.
Voilà. L'énergie qui est donc ainsi libérée, Marc, est une énergie sous forme thermique. C'est la chaleur. C'est donc.
Tout à fait, Paolo.
Ouais.
Oui, pour continuer notre explication sur les réactions nucléaires, pour les atomes très légers, au contraire des atomes lourds, deux noyaux peuvent à ce moment-là se fondre pour former un atome plus gros, plus lourd, mais plus stable aussi, en dégageant aussi une énergie considérable. Alors là, c'est ce qu'on appelle la fusion. On fusionne, par exemple, des noyaux d'hydrogène et d'hélium, en noyaux d'hélium.
Oui, donc, Marc, en pratique, l'énergie des liaisons d'un atome est le ciment qui tient ensemble les constituants du noyau, les protons et les neutrons. Et elle correspond à l'énergie qu'il faut fournir au noyau pour les dissocier en nucléons isolés.
Oui, c'est exactement cela, Paolo. Les noyaux des atomes de masse moyenne, hein, comme, par exemple les atomes métalliques comme le fer ou le nickel, sont les plus fortement liés, donc les plus stables
Ouais.
que les noyaux lourds comme l'uranium ou très légers comme l'hydrogène.
Oui. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut provoquer des réactions nucléaires qui vont libérer de l'énergie. Et donc, nous avons la fission ou cassure des noyaux très lourds en deux noyaux de taille moyenne. Ou sinon, nous avons la fusion des noyaux très légers en un noyau un peu plus lourd et plus stable avec émission d'une très grande quantité d'énergie.
Exactement, la fission consiste à casser des noyaux lourds, comme ceux par exemple bien connus de l'uranium-235 ou du plutonium-239, et cela sous l'effet de l'impact d'un neutron. Donc on bombarde un noyau avec un neutron, et elle transforme chaque noyau en deux autres noyaux, environ 2 fois plus petit.
Ouais.
C'est l'énergie libérée par cette réaction qui est utilisée dans les réacteurs électronucléaires actuels. Là, elle apparaît effectivement sous forme de chaleur, et comme pour toute combustion thermique, hein, sa conversion en électricité a un rendement limité. On est entre 35% pour les réacteurs de deuxième génération, et on atteindra 37-38% dans le cas de l'EPR en
Ouais.
cours de construction.
Ouais. Et pour la fusion nucléaire, qui est le phénomène qui se produit au cœur du Soleil et des étoiles, principalement par fusion des noyaux d'hydrogène et des noyaux d'hélium.
Exactement cela, Paolo. Depuis une cinquantaine d'années, de nombreux laboratoires étudient la fusion contrôlée de deux noyaux légers, alors comme ceux du deutérium et du tritium, hein, qui sont deux isotopes un peu plus lourds de l'hydrogène un peu lourd. C'est un domaine qui est encore au stade de la recherche. Deux voies sont explorées, la fusion rapide par confinement des noyaux au moyen d'un laser et la fusion lente par confinement magnétique. C'est ce que fait le programme européen mondial maintenant, même d'ITER, hein, qui est situé dans le sud de la France. Mais la production industrielle d'électricité par fusion n'est pas envisageable, à mon avis, avant plusieurs décennies.
Oui. Très bien, Marc. Nous avons à peu près expliqué le fonctionnement de réactions nucléaires en sachant que c'est la fission qui est aujourd'hui couramment utilisée dans les centrales électronucléaires.
Oui, Paolo, cette fission, elle a été découverte et comprise, hein, on a mis un petit peu de temps, il y a un siècle à peu près, vers 1930, et ensuite l'homme a entrepris d'exploiter la fission des atomes lourds pour en extraire cette énergie nucléaire. Dans la croûte terrestre, le minerai d'uranium naturel, il est constitué à 99,3% d'uranium-238 qui est stable, et d'environ 0,7% seulement d'uranium-235 qui est fissible. Et le combustible nucléaire est constitué d'uranium qu'on enrichit un peu vers 4-5% en isotope 235. Alors à chaque désintégration, un noyau d'uranium 235 émet plus de 2 neutrons. Et au-delà d'une certaine concentration, un de ces neutrons va provoquer la désintégration d'un autre noyau d'uranium 235. C'est ce qu'on appelle la réaction nucléaire en chaîne. Alors s'il est présent, l'uranium 238 peut aussi absorber un neutron pour se transformer en plutonium 239, lui ainsi instable comme l'uranium 235.
Oui, Marc. Bon, celle-là, c'est un peu complexe quand même. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en contrôlant cette réaction en chaîne, on dispose d'une source d'énergie continue, puissante et compacte.
Ah oui, c'est cela, Paolo. C'est le mot compact est absolument juste, et même à un point incroyable, puisqu'un petit gramme d'uranium 235 pur peut libérer 72 milliards de joules.
Ouais.
1 gramme de pétrole, si on compare, c'est seulement 42 000 joules. Donc
Ouais.
l'uranium, il libère 1730 fois plus d'énergie que le pétrole, qui est déjà
Ouais,
une énergie très dense.
tout à fait.
Et en plus, bon, comme on disait tout à l'heure, on utilise dans les centrales nucléaires classiques actuelles de l'uranium enrichi à seulement 4%. Donc le rapport énergétique par rapport au pétrole, il est proche de 70. Mais tout de même, 70 fois plus que le pétrole, c'est pas mal.
C'est pas mal,
Et
ouais.
donc, on comprend tout l'intérêt pour cette énergie, en particulier en Europe, hein, quand le pétrole de l'OPEP, les pays exportateurs de pétrole, a été très rationné et son prix a pratiquement été multiplié par 4 lors de la guerre du Kippour avec Israël en 1973.
Ouais. Et ça, c'est une très bonne introduction, Marc, pour tout nous dire sur les enjeux géopolitiques et environnementaux, ainsi que sur les avantages et inconvénients de cette source.
Ben oui, il est clair que l'énergie nucléaire est aujourd'hui au cœur des débats sur les énergies du futur et devrait l'être lors de la prochaine campagne présidentielle en France l'année prochaine, il me
Ah
semble.
ouais.
Alors, parmi les caractéristiques positives, il me semble qu'on peut retenir l'exceptionnelle densité, hein, on en a
On
parlé tous
vient
les
de le
deux.
dire, ouais.
1 gramme d'uranium 235, c'est la même quantité pratiquement que 3 tonnes de charbon ou 2 tonnes de fioul.
Ouais.
Un fonctionnement, ça il faut le dire, on ne l'a pas encore dit, sans émission de dioxyde de carbone, aucun gaz à effet de serre. Donc assez formidable de ce côté-là. Puis des réserves de combustible, donc d'uranium, relativement bien réparties géographiquement, d'un siècle minimum, peut-être plusieurs, devenant même des millénaires dans le cas de réacteurs surgénérateurs capables de recycler les déchets accumulés par les centrales actuelles, en consommant finalement beaucoup moins de matériaux fissiles. Une facilité aussi de remplacer les centrales au charbon, hein, les énormes dont on parlait, c'est à peu près la même puissance, 1500 MW, c'est une belle centrale nucléaire aussi, et ainsi d'assurer la transition énergétique, comme l'ont bien compris les Chinois. Parce qu'on a besoin de la même source de refroidissement pour les deux types de centrales, donc de l'eau, beaucoup d'eau, soit la mer, soit un grand fleuve, même réseau de transport, de câbles électriques qui partent déjà des centrales à charbon et qui pourraient tout à fait partir de centrales nucléaires, c'est les mêmes fils. Et puis irriguant finalement tout un territoire autour. Enfin, et peut-être surtout la stabilité des prix, car le prix de cette électricité-là est très peu dépendant du prix de l'uranium. L'uranium n'intervient que pour quelques pourcents. Ça n'a rien à voir avec le gaz, par exemple.
Oui, vu la quantité, effectivement.
Eh oui.
Ces éléments sont effectivement, en effet, très positifs, Marc. Mais il y a bien sûr un certain nombre d'inconvénients.
Oui, bien sûr. Il y en a toujours dans les activités humaines. Je
Eh
pense que nous pouvons retenir les points suivants. L'énergie nucléaire de fission nécessite quand même au départ des investissements très lourds, obstacle important. Même si, in fine, au bout de 30 ou 40 ans de production, cette énergie s'est historiquement avérée très rentable. Ensuite, la maîtrise de sa sécurité, elle est très exigeante et a fait l'objet de renforcements considérables des normes, en particulier suite aux accidents de Fukushima Daiichi et surtout de Tchernobyl. Ces déchets, c'est des faibles volumes. Hein, c'est un dé à coudre par Français par an à peu près. Mais ils sont très dangereux. Et donc, ils sont l'objet de débats hein, pour le confinement souterrain ou aérien, par exemple, où s'affrontent des logiques différentes. Et puis enfin, n'oublions pas aussi, on ne sait pas très bien le faire aujourd'hui, hein, le démantèlement des centrales qui arrivent à leur obsolescence après 40 ou 50 ans de service.
Je partage ta liste d'inconvénients. On fait une petite pause musicale, Marc, là, et on va continuer dans quelques minutes. Très bien, Marc, après cette petite pause, on recommence et on reprend notre sujet sur les inconvénients du nucléaire, de la fission. Il y a aussi un aspect qui me semble important et qu'il ne faut pas négliger, c'est les risques de prolifération. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux pays qui s'équipent d'armes nucléaires et qui sont difficiles à éliminer totalement. Et on voit bien le cas de l'Iran. Bien Marc, avec ces éléments, il me semble que nous pouvons conclure sur une note fortement positive pour la fission nucléaire, aujourd'hui couramment utilisée pour la production d'énergie électrique, qui permet entre autres de réduire très fortement, voire à presque zéro, les émissions de gaz à effet de serre, qui est un des gros enjeux des années à venir, et de maintenir les prix bas d'électricité, surtout dans les pays en développement qui ne peuvent pas payer le pétrole, gaz, métaux rares ou critiques, ou même charbon. Mais venons à la situation de cette énergie au niveau de sa production et de son utilisation.
Alors, les acteurs majeurs de l'énergie nucléaire civile sont en fait les États qui s'étaient dotés d'une arme nucléaire assez vite, hein, parce qu'ils ont ainsi maîtrisé les technologies qui sont au cœur du nucléaire civil. Alors, parmi ces pays, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie, puis la Chine et l'Inde. Alors, des puissances économiques non dotées d'armes nucléaires ont également développé des capacités nucléaires civiles, l'Allemagne, le Canada, le Japon, la Corée du Sud, l'Espagne ou la Belgique, j'en oublie. La production totale d'électricité, c'est à peu près 12% qui est produite par le nucléaire. 2440 et quelques térawattheures d'électricité.
Oui, c'est non
Et cela
négligeable.
par 448 réacteurs nucléaires en 2015. Alors le principal producteur, c'est les États-Unis, près de 800 térawattheures, mais suivi par moitié de la France, hein, un peu au-dessus de 400, et puis 200 térawattheures en Russie. Il y a ensuite la Chine, qui va probablement dépasser la France dans 2022-2023, la Corée du Sud, le Canada, l'Allemagne, l'Ukraine, le Royaume-Uni. Enfin, il y en a pas mal.
Oui. Bon, Marc, effectivement, ces statistiques ne sont pas tout à fait à jour. La sortie du nucléaire civil a été mise en place en Autriche en 1978, en Suède, en Italie, en Belgique et en Allemagne en 2000, et en Suisse en 2011, et dans les provinces du Québec aussi en 2013. Et donc, elle est discutée dans d'autres pays. Mais de nouveaux pays ont installé aussi de nouvelles centrales, comme les Émirats, la Finlande, l'Égypte et la Turquie. Et ainsi, début 2021, 54 centrales sont en construction dans le monde, dont 14 en Chine et 6 en Inde. Plus de 100 sont en phase d'étude et d'autorisation. Et pour
C'est
l'Allemagne,
important.
oui, et pour l'Allemagne, en mars 2011, après la catastrophe de Fukushima, Angela Merkel a programmé l'arrêt définitif de la totalité des centrales nucléaires allemandes au plus tard en 2022. Donc il y a encore un peu de production d'énergie nucléaire en Allemagne. Et malheureusement, suite à cette décision, des centrales à charbon ont été construites pour remplacer la production des centrales nucléaires. Et c'est là avec un impact très négatif sur les émissions de gaz à effet de serre et aussi sur les particules fines.
Eh oui, Pablo, nous avons vu hein, dans une émission précédente que les sources intermittentes, finalement, comme l'éolien, qui sont fortement développées en Allemagne, hein, ils ont fait un beau travail là-dessus, elles n'ont pas pu compenser complètement les pertes de production nucléaire, en particulier dans les moments où il n'y a pas de vent.
Eh oui. Il me semble, Marc, aussi qu'il faut mentionner les rôles de l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, qui dépend directement du Conseil de sécurité de l'ONU. Et là, pour rôle d'assurer un usage sûr et pacifique des technologies et des sciences liées au nucléaire. Pour la construction des centrales électronucléaires, qui sont les principaux acteurs?
Ben, je dirais que les principales sociétés sont les françaises Areva EDF, hein, on les connaît bien ici, et aussi les américo-japonais. Il y a une grosse alliance entre les deux pays, Westinghouse, Toshiba d'un côté, General Electric et Hitachi de l'autre, Mitsubishi, un autre japonais qui va un peu de lui-même, KEPCO en Corée du Sud, AECL au Canada, et surtout finalement Rosatom en Russie, qui est probablement le plus entreprenant, le plus commercial aujourd'hui partout dans le monde.
Ah, oui. Très bien, Marc. Venons à un sujet qui intéresse beaucoup nos auditrices et nos auditeurs, la radioactivité. Elle se mesure comment?
Alors la radioactivité, elle a d'abord été mesurée en Curie, qui est une unité très grande, puis en Becquerel, hein, qui est une désintégration atomique par seconde, une unité minuscule, elle. Alors les doses absorbées, je pense que c'est ce qui intéresse les auditeurs, ce calcul en grès. Et l'effet de ces doses absorbées, suivant la nature du produit radioactif, s'exprime en sieverts. Alors, l'une, c'est VOR, c'est United Nations Scientific Committee on the Effect of Radioactivity. Il a établi un tableau de dangerosité des doses absorbées en supposant une irradiation aiguë et totale du corps humain. Alors, cette gradation, elle va de 20 millisieverts, très faible dose, hein, à 200, c'est des faibles doses, puis 2000 millisieverts, c'est ce qu'on appelle une dose moyenne, puis 10 verts ou 10 000 millisieverts, ça c'est des fortes doses, à plus de 10, là on est dans du très très forte dose. Alors pour la létalité, on a étudié les séries de malades rescapés d'Hiroshima et de Nagasaki, et on a vu que les gens qui avaient absorbé moins de 500 millisieverts, était toujours vivant, même si ce n'est pas toujours en bon état. Donc on peut considérer ces 500 millisieverts, en fait, comme le seuil avéré, mesuré de létalité.
Ouais, d'accord.
Alors la
Bien.
puissance
Oui.
des centrales nucléaires, elle est en mégawatts, hein, comme celle des centrales à fioul, à
Ouais.
charbon, et maintenant les centrales de deuxième génération, ou les EPR, ils ont tous des puissances, en fait, de l'ordre du gigawatt, de 1000 mégawatts.
Donc oui, ils sont des grandes puissances, les centrales nucléaires.
Tout à fait, en fait.
Et Marc, quel est le bilan de l'installation des centrales nucléaires dans le monde?
Ben, c'est aujourd'hui 441 réacteurs nucléaires opérationnels dans 35 pays, dont près de 100 aux États-Unis et près de 60 en France. L'Europe produit près d'un tiers de l'électricité nucléaire mondiale aujourd'hui.
Ouais. Et bon, l'évolution de cette énergie est un paramètre important. C'est une énergie qui a joué un rôle très important au niveau militaire, hein. Les deux bombes sur Hiroshima et Nagasaki qui étaient des bombes à fission qui ont été utilisées en 1945. Et dans la dissuasion mutuelle entre deux blocs pendant toute la guerre froide en 1950, de 1950 à 1990.
Oui, et au niveau civil, la fission nucléaire contrôlée, elle a démarré à peu près en 1950 aux États-Unis pour produire de l'électricité. Alors les modèles actuels sont pour l'essentiel des réacteurs à eau de deuxième génération, dont la durée de vie pourrait atteindre ou dépasser dans quelques cas 50 ans. Une troisième génération améliorée de ces réacteurs à eau est en cours d'installation, par exemple les EPR. Alors, leur remplacement par des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides, consommant tout l'uranium et produisant moins de déchets. Alors, il nécessite cela l'emploi de matériaux résistants à très haute température, à des flux intenses. Et donc, ils en sont au stade expérimental, surtout en Russie et aux USA. La France ayant abandonné son prototype qui s'appelait Astrid il y a 2 ans maintenant, en 2019.
D'accord. Et pour le futur, Marc, quelles sont les évolutions
Ben, de
qu'on...
nouvelles opportunités, à mon avis, pourraient stimuler le développement de l'énergie nucléaire civile dans les années, les décennies qui viennent. Donc, l'intensification des recherches technologiques pour maîtriser les réacteurs de quatrième génération, qui pourraient résoudre à la fois les problèmes d'approvisionnement et de déchets, puisqu'on brûlerait ces déchets comme combustible. L'émergence de smart grid, comme on dit maintenant, des réseaux de distribution électrique intelligents, conjuguée à celle de petits réacteurs modulaires, donc de 100 à 200 mégawatts, consommateurs d'uranium appauvri, ça pourrait constituer des sources d'approvisionnement électrique local. C'est justement ce qu'on voit aujourd'hui, il y a une sorte de course internationale à ces mini réacteurs qu'on appelle SMR en anglais, Small Modular Reactor, je crois, par presque tous les États. La Russie qui fait la course en tête aujourd'hui, hein. Elle a installé son premier SMR sur un bateau, une barge, dans un port sibérien où il n'y avait pas d'énergie avant. Alors la France a aussi confirmé son intérêt l'année dernière et EDF travaille donc sur ce projet qui s'appelle New World, de même que le Royaume-Uni qui est assez en avance aussi avec un projet de Rolls-Royce. Alors ce type de nouveau réacteur petit pourrait permettre une décentralisation de l'énergie et une diminution des prix, car il serait produit comme une voiture à la chaîne en usine, quoi.
Et en plus, effectivement, on rapproche la production de la consommation, ce qui est une bonne chose.
Oui, toujours aussi. Et puis après, bah, il y a des progrès encore attendus sur la fusion nucléaire, on en a déjà parlé, hein. Énergie puissante et avec des ressources considérables. Donc, il pourrait ouvrir une nouvelle voie, nouvelle, on pourrait dire, à l'énergie nucléaire.
Bon, Marc, nous sommes presque en limite de temps. Là, il y a bien sûr d'autres domaines où l'énergie nucléaire est utilisée, en médecine, en radiothérapie, en instrumentation industrielle et scientifique, et dans le domaine spatial pour la propulsion des satellites. Mais donc, voilà.
Tout à fait, oui.
Voilà. Bon, voilà, chers auditeurs, nous vous avons fait une revue assez complète, il me semble, des énergies liées aux réactions nucléaires. Dans la prochaine émission, nous continuerons à vous parler de l'énergie d'origine nucléaire, notamment sur le fonctionnement d'une centrale nucléaire, avec une réaction de fission nucléaire. Et l'autre sujet de la prochaine émission sera aussi sur les sources d'énergie qui deviendront peut-être très importantes dans un futur proche, comme l'hydrogène. Voilà, chères auditrices et chers auditeurs, comme vous savez, vous pouvez réécouter cette émission sur www.radiograndciel.fr et nous vous invitons à nous écrire si vous voulez. À bientôt!
À très bientôt.
Sein und